Paso doble.
Paso doble.
Lundi, littérature.
Bonjour, Léonora Mieno, ravi de vous retrouver.
Bonjour, ravi également d'être ici.
Quatre voix de femmes habitent votre dernier roman, Crépuscule du Tourment, publié chez Grasset. Quatre femmes qui s'adressent à un même homme. Cet homme, c'est un peu le fantôme du roman, il faut le dire, l'absent omniprésent. On finit vite par l'oublier pour entendre à tour de rôle Madame sa mère, son ancienne amante, sa future femme et enfin sa sœur. Donc chacune va parler de sa relation avec cet homme et au-delà de sa relation avec son corps, avec son histoire, avec la famille, avec la culture. Est-ce que c'était très important pour vous, Léonora Mieno, de faire entendre des voix de femmes, de prendre quatre personnages féminins?
Puisqu'on se connaît bien, je vais vous dire la vérité. Ce qui était important pour moi, c'était d'arriver à m'examiner moi-même sous tous les angles. Il m'a fallu quatre figures féminines pour le faire. C'était un roman que je voulais une espèce de traversée de mes propres nuits intérieures et voilà, je voulais examiner pour moi-même ces questions de la culture, de l'intimité, de comment est-ce qu'on se construit en tant que femme, de ses relations avec les autres, tout ça. Et ma manière à moi de me déshabiller, c'est de raconter des histoires. Donc il n'y a que moi qui sache derrière les personnages quelle est mon histoire, quels sont les points de biographie que j'ai souhaité analyser, mais c'était ça la nécessité.
Et pour vous, le roman c'est la place de l'intime, on peut exprimer ce qu'on cache, ce qu'on est obligé de cacher.
C'est l'espace de la plus grande liberté et de la complétude totale. Donc oui, on peut exprimer ce qu'on ne dit pas au quotidien. On peut montrer à soi-même d'ailleurs aussi ce qu'on n'accepte pas de soi. On peut tout faire. Il n'y a pas de limite pour moi. Il n'y a pas de limite dans cet espace-là. C'est l'endroit où on ne transige pas, l'endroit de la plus profonde vérité. L'endroit du refus de la complaisance aussi, voilà, c'est pour moi c'est ça, ouais. Donc on peut tout faire, tout voir, tout dire.
C'était la semaine dernière, cette interview que j'avais enregistrée avec Megan Abbott, auteure américaine, et comme elle travaille dans le polar, je lui demandais quelle était l'idée de départ d'un polar, une chose vue, une chose sentie, une envie de parler d'un milieu, comment elle faisait pour commencer la première ligne. Elle me répondait, c'est la voix qui compte. Tant que j'ai pas trouvé la voix de mon personnage, et je dis bien la voix avec X à la fin, je ne peux pas me lancer dans l'écriture. Et vous, Léonora Mieno, vous travaillez avec quatre voix. Est-ce que c'est quatre états différents, quatre manières d'aborder votre intimité qui se dissimule derrière ces quatre femmes de votre roman Crépuscule du Tourment?
Pour moi, le point de départ de l'écriture d'un roman, c'est toujours une question. Ensuite, je crée des personnages qui représentent pour moi les données de la question. Alors, elle est jamais révélée au lecteur, cette question, parce que ça n'a pas d'importance pour lui. Mais pour en approcher la réponse, j'ai besoin, oui, d'inventer des figures et de les faire interagir et beaucoup penser. Quand j'ai vraiment une question douloureuse et très intime, ça peut donner même des romans un peu théoriques parce que ça va être assez assez réflexif. et on est dans cette veine pour ce crépuscule, hein, et pour le texte qui suit, parce que ma nuit à traverser est longue. Mais après ça, je pense que j'ai vraiment pété la forme et que je vais faire autre chose.
Mais est-ce que vous cherchez une voix particulière à chaque personnage? Donc une écriture particulière?
La plupart du temps, oui. Surtout si je les fais parler, si on entre dans l'oralité, je cherche un phrasé, quelquefois même un vocabulaire, des tics de langage, à chaque personne. Les lecteurs ne les voient pas toujours, mais ici, elles ont vraiment un rythme particulier et des habitudes. Oui, elles ont leur tic de langage. J'ai besoin de les entendre. De toute façon, moi, je suis un auteur qui entend ces textes. Et il y a une justesse du texte, une justesse rythmique et mélodique. Et c'est même ça qui prime. Il peut m'arriver d'écrire un mot dans une phrase juste pour avoir le bon phrasé, pour une question de rythme, et de chercher ce mot pendant toute une journée. Rester une demi-journée sur un paragraphe parce qu'il faut résoudre un problème de rythme. Donc oui, je suis habitée par ces questions-là, et la voix est très importante. Mais c'est comme au théâtre, hein. Si le texte ne sonne pas juste, on peut mettre tous les décors qu'on veut, faire ce qu'on veut au personnage, ça marche pas. On n'y croit pas.
Alors c'est bien d'entendre ces voix et d'avoir votre réaction, Léonora Miano. Donc avant de parler du fond, c'est-à-dire du rapport au corps qui est très important dans votre roman, de la sexualité féminine, mais aussi le propos politique qu'il a depuis le début de votre carrière d'écrivain, votre point de vue sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou même en France. Avant tout ça, faisons entendre ces voix qui habitent votre livre. Et le premier extrait, je voudrais que vous les lisiez vous-même, Léonora Miano.
Alors ici, c'est un personnage qui s'appelle Amandla, que j'aime beaucoup, que j'avais créé déjà il y a quelques années, qui m'avait valu d'être accusé d'être une Black Panther. Et Amandla est, on va dire, française, née en Guyane française. Et donc c'est une créole, une personne descendante de déportés subsahariens, et qui a été élevée par une maman qui ne lui a transmis que la douleur d'être noir, ou d'être en tout cas appelé comme ça et d'avoir été coupé de son ancestralité. Et donc Amandla est quelqu'un qui voit le monde et ses relations avec les autres à travers ce prisme très particulier. Down here below, the winds of change are blowing through the weary night. I pray my soul will find me shining in the morning light. Down here below, je n'étais qu'une enfant lorsque ma mère m'apprit à récuser les appellations par lesquelles notre identité fut bafouée. Ces mots à travers lesquels on s'employa à nier notre humanité. Je sus très tôt que la terre où l'espèce humaine vit le jour s'appelait Kemet. Que nous étions des Kémites, pas des Noirs. La race noire n'avait été inventée que pour nous bouter hors du genre humain. Justifier la dispersion transatlantique. Faire de nous des biens meubles que l'on achèterait à tempérament, des bêtes que l'on marquerait au fer rouge avant de les baptiser selon le rite chrétien. Nous résiderions désormais entre l'objet et l'animal. Tel est le sens du nom racial dont on nous affubla. Jamais il ne fit référence à nos 36 carnations. Je ne comprends pas que nous soyons si nombreux à nous définir ainsi, à nous approprier l'injure, à prétendre l'investir d'une autre signification. C'est comme habiter une benne à ordures après l'avoir récurée et repeinte. And we are banished from your grace. The one you fashion with your hand.
Léonora Miano, vous avez pris une voix très très douce pour cet extrait.
Je suis une personne très douce. Peut-être pas Amandla, mais moi je suis une personne très douce. Et je pense que, de façon générale, si on veut dire des choses fortes, il ne faut pas crier. Je donne souvent des récitals poétiques, donc j'écris des textes poétiques et politiques qui sont parfois difficiles à entendre. Et je pense que si je venais sur scène en criant, je ne pourrais pas du tout être écoutée quand je parle de la race, quand je parle de l'immigration non choisie vue d'Europe alors après avoir envahi le monde par exemple. Je pense qu'il faut exprimer tout ça de manière apaisée, pour que ça arrive au cerveau des gens, que ça s'arrête pas seulement là où ça fait mal, qu'ils arrivent à l'entendre et qu'ils puissent y penser, même si même s'ils sont pas d'accord. Parfois les gens sortent, hein, ils sont trop agressés parce que je leur dis et qu'ils ne s'étaient pas imaginés. Mais je suis pas dans le cri, je ne suis pas dans l'invective, je n'ai pas de désir de revanche. Je veux vraiment qu'on réfléchisse à ces questions tout simplement pour avancer. Donc j'ai pas de, je viens pas gueuler, je fais jamais ça.
Cette sagesse, elle vient avec le temps aussi.
Ah mais moi je suis née vieille moi. C'est un de mes problèmes dans la vie d'ailleurs. Non, je pense pas que ça vienne spécialement avec le temps. Je crois que c'est ce qui est pertinent quand on approche certains sujets en littérature ou même en dehors. Hein. Si vraiment on veut être entendu des gens, il faut entrer en conversation avec eux. Il faut vraiment installer ce ton de la conversation, que les gens comprennent que même si le sujet est désagréable, vous n'en avez pas avec eux, après eux personnellement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas d'eux en tant qu'individus. Et l'attitude est très importante si on veut arriver au bout de cette conversation au cours de laquelle on va se dire des choses parfois désagréables. Et que ce soit ici ou ailleurs, parce que je peux aussi avoir des conversations désagréables avec mes lecteurs africains, hein, ouais. Puisque moi je renvoie tout le monde dos à dos, tout le monde fait des conneries. Et tout le monde peut avoir des choses à se reprocher, donc voilà, il faut venir avec l'énergie de l'amour. Moi je suis très baldwinienne, hein, comme James Baldwin qui était donc très très critique, mais qui avait compris qu'on ne peut, travailler à la réforme qu'en acceptant d'avoir partie liée avec les personnes à qui on la demande. Hein, si tu te sens complètement déconnecté, si tu estimes que tu n'as rien à voir avec eux, tu peux rien leur demander.
Léonora Mianou, moi je parlerai plutôt de maturité, parce que nos premiers entretiens, il y avait quand même une colère qui vous habitait. Cette colère est là, mais ce que j'aime bien dans votre dernier roman, Crépuscule du Tourment, c'est que cette colère s'adresse aussi au temps moderne et au monde entier. C'est-à-dire que c'est remis dans le contexte du monde d'aujourd'hui. Et pourtant on retrouve tout, c'est-à-dire le poids de l'histoire coloniale, le rapport dans des sociétés où la culture ancestrale est très forte, le rapport au corps, les interdits et les tabous. Vous consacrez quelques pages d'ailleurs à l'homosexualité féminine, et ça fait partie d'ailleurs du caractère un peu militant de votre roman. Vous décrivez aussi la bourgeoisie africaine d'aujourd'hui, de ce monde mondialisé. On a l'impression que vous avez pris du recul sans avoir rompu avec vos combats.
Je ne suis pas passionné d'avoir des combats, ni d'avoir pris tellement de... Non, mais vous me direz ça, je ne suis pas persuadé, en tout cas, de les placer où vous les mettez. Ce que je dirais de moi, il y a quelques années, c'est pas que j'étais en colère, j'étais très sur la défensive. Aujourd'hui, je m'en fous de ce qu'on dit. Avant, j'avais l'impression d'avoir quelque chose à défendre. Et plus tellement aujourd'hui, on peut me lire comme on veut, dire ce qu'on voudra, j'en suis plus là. J'ai 40 ans passés, alors peut-être que la maturité est effectivement de ce côté-là. J'ai 40 ans passés, mais surtout, je suis un auteur quand même un peu reconnu. Hein? J'ai été très, très fêtée. J'ai pu écrire finalement sur les thématiques qui m'intéressaient, même quand elles ne plaisaient pas. Je pense qu'il y a un moment où il faut se rendre compte aussi de ce qu'on a reçu.
Ça veut dire quoi, écrire sur des thématiques qui ne nous plaisent pas? C'est un combat, c'est une manière d'affronter le réel et d'avoir son mot à dire, non, Leonora Miano?
Non, parce que c'est quand vous avez écrit que vous vous apercevez que c'est un problème pour les autres. J'ai jamais décidé d'écrire en disant je vais écrire là-dessus parce que ça ne plaît pas. Quand j'ai commencé à créer des personnages noirs dans l'espace européen, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes éditeurs que j'avais pas quand je leur proposais des textes avec des textes qui se passaient en Afrique. J'ai commencé à entendre des choses comme « mais ces personnages ne sont pas universels ». Donc que les personnages africains étaient donc plus universels que les personnages afro-péens. C'était très curieux comme discussion. Mais enfin, voilà. Mais je n'écrivais pas ça pour déplaire. J'écrivais ça parce que ça faisait partie de ma réalité. C'était des choses que je voyais autour de moi et que j'avais envie d'interroger et de partager avec les gens. Et je me suis rendu compte que c'était un problème. Mais c'est pas parce que c'était un problème pour eux que j'allais cesser, parce que ça me semblait nécessaire et en phase avec les évolutions de la société. Je pense que c'est moi qui ai eu raison et qu'on aurait dû me lire à l'époque. On aurait vraiment dû me lire.
Mais sauf que cet afrocentrisme qui posait problème dans vos premiers romans et qu'on retrouve dans Crépuscule du Tourment, il est inscrit dans un phénomène plutôt universel qui est la crispation identitaire, que vous jugez d'ailleurs très bien. Hein. Vous n'êtes pas là pour être juge. Vous voyez aussi l'importance que ça a de s'approprier une culture et d'être inscrit dans cette culture. Et vous montrez aussi les dérive de cette envie identitaire qui est effectivement universelle aujourd'hui.
Oui, elle est universelle. Les gens ont l'impression que le monde va trop vite et n'arrivent pas à se représenter l'avenir. Donc voilà, l'inconnu fait peur. Hein. Tout le monde n'est pas excité par l'inconnu comme je peux l'être ou par l'idée de la métamorphose profonde. Je pense par exemple que l'Europe va sortir de l'occidentalité, mais c'est pas un truc qu'il faut dire aux gens, ça leur fiche la trouille. Alors que ça peut être chouette la post-occidentalité en fait. Et je pense vraiment que c'est vers là qu'on va. Mais bon, les gens n'ont pas envie. Ils veulent se dire qu'ils restent des descendants de leurs ancêtres et qu'il y a quelque chose de fondamental qui ne bougera pas. Mais cette envie, c'est pas seulement ici. Ça existe aussi en Afrique.
Qui a inventé des légendes?
Ah ben oui, et tout le monde en invente des légendes. Et tout le monde s'y cramponne hein, aux légendes inventées parce que on a envie, c'est normal de vouloir se définir, c'est normal de vouloir un peu ennoblir ses traits. Ce qu'il est peut-être moins, c'est de vouloir inférioriser les autres, c'est de vouloir, voilà, c'est ça le problème. Mais c'est normal de vouloir se voir beau dans le miroir, quoi, je veux dire, c'est humain.
Léonora, c'est beau comme prénom, mais c'est très africain, c'est très particulier, c'est votre prénom d'écrivain
Non, c'est mon vrai prénom. En fait, mon premier prénom, parce que j'en ai beaucoup, est un prénom composé, c'est Clarisse Léonora, donc c'est très long, Clarisse Léonora. J'étais le premier enfant et donc mes parents voulaient tous les deux donner le premier prénom, donc j'ai un prénom composé, mon père m'a appelé Clarisse, ma mère Léonora.
C'est pas très camerounais, hein.
Non, mais j'ai plein de choses derrière. J'ai un nom camerounais aussi, un nom très, très, très de la côte du Cameroun que je pourrais énoncer lorsque je disparaîtrai et que je rencontrerai mes ancêtres. Je leur dirai ce nom-là et pas Léonora, comme ça ils me reconnaîtront et je serai admise auprès d'eux. J'en ai un. Je ne le dis jamais parce que les Français ne savent pas le prononcer. Je déteste qu'il soit écorché.
Mais
je réponds aussi à ce nom-là. Je m'appelle Ndondoki.
Comment?
Ndondoki. Et Ndondoki, ça veut dire l'aiguillon ou le dard. C'est ma mission.
Ça a été un plaisir de vous avoir ce matin, dans ce petit moment préparé avec Anaïs Isbert, réalisé par Thomas Duterre. Bonne matinée.